Donc, comme je le disais, ça se trouve dans les Écritures. Et puis, sans dévoiler dès maintenant ce que je vais vous dire complètement dans cet exposé, dans ce cercle biblique, on peut voir à travers certains passages bibliques que les auteurs qui ont écrit sur l'élection ont été poussés à l'adoration et à la louange. Par exemple, Paul, dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 14, il déroule toute une prière de louange à la gloire de Dieu. Dans l'original, c'est une seule phrase. Et parce qu'il dit que nous avons été comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Et la première de ces bénédictions citées, celle qui est la source de toutes les autres, c'est que nous avons été choisis, élus, avant la fondation du monde. Je vais lire Éphésiens 1, versets 3 et 4. « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En lui, dont il déroule la première de ces bénédictions, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis, pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. » Puis il continue comme ça, il va beaucoup parler de l'élection dans ce passage. Donc, chez Paul, ce choix, cette élection de Dieu, est avant tout source de louange. C'est le fruit que la contemplation de cette vérité va produire dans les écrits de Paul. Et j'espère qu'à la fin de cet enseignement, vous aurez envie de louer Dieu pour sa grâce et pour son élection. Cette étude de l'élection et la première aussi d'une série de ce qu'on appelle parfois l'application de la rédemption. C'est le titre qu'en donne Wayne Grudem dans son gros livre de théologie systématique que Norbert cite souvent. Il y fait souvent référence à l'enseignement à l'Église. Ou aussi on appelle ça l'ordre du salut. Et qui, selon les ouvrages de théologie, peut comprendre. Là, je vais vous citer la table des matières de Grudem. Dans l'application de la rédemption, il met l'élection, qui est avant la fondation du monde. Et puis il met le chapitre sur l'appel, sur la régénération, sur la conversion, qui comprend la repentance et la foi, sur la justification, notre statut légal devant Dieu, sur l'adoption, puis la sanctification, le baptême et la plénitude du Saint-Esprit, la persévérance des saints, comment Dieu nous garde avec lui tout au long de notre marche, la mort et l'état intermédiaire, que se passe-t-il avec le croyant quand il meurt, avant s'il est mort, avant que Jésus revienne, et la mort et l'état intermédiaire. Et donc, c'est tout un déroulé de ce qu'on appelle l'ordre du salut. Donc, on voit un déroulement de l'ordre du salut qui commence avec l'élection de Dieu. Alors, au début, nous ne sommes pas du tout concernés, puisqu'on vient de voir, c'était avant la fondation du monde. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisi pour que nous soyons saints. Et ça va jusqu'à la glorification, lorsque Jésus reviendra et nous transformera, nous attribuera un corps glorifié dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Je reviens rapidement sur cet ordre du salut. Élection, appel, donc ça c'est avant la fondation du monde, et après appel, régénération, conversion, justification, adoption, tout ça c'est simultané, ça se passe à la conversion. Hein. Mais on peut voir qu'il y a comme un ordre que Dieu a établi. Dans l'Écriture, on peut voir qu'il se passe, on verra ça tout au long, ce sera un fil rouge de ces cercles bibliques un peu tout au long de l'année. Il n'y aura pas que ça, mais ça il sera en grande partie. Puis après on voit la sanctification qui est en partie à la conversion. C'est notre position de Valion, on a été mis à l'écart. Et en partie, tout au long de notre vie, le Saint-Esprit va nous transformer pour que nous soyons semblables à Jésus-Christ. Pareil, baptême et plénitude du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ça peut être, c'est au moment aussi de la conversion. Le Saint-Esprit nous intègre dans le corps de Christ. Mais après, on peut connaître des expériences de plénitude, qu'on appelle aussi des expériences de baptême. La persévérance des saints, ça rejoint la sanctification. Et comme on a vu, la mort et enfin la glorification, où il y aura le salut. On va dire le salut final ou complet plutôt, hein, avec l'attribution du corps de résurrection. Voilà un petit peu ce qu'on va voir cette année. Et en premier, on va donc commencer par l'élection. Donc, mais si ce salut, alors là je suis dans le passage brève présentation Père, Fils et Esprit. Hein, si ce salut est appliqué à nos vies par le Saint-Esprit, c'est d'abord qu'il a une réalité objective en dehors de nous. En gros, pour schématiser, on dit que le Père nous a élus, c'est Éphésiens 1, 4 et 5, en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis, puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ, que Jésus-Christ a accompli la rédemption pour nous, quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il a payé pour nos péchés, et quand il a vécu, donc il a pris nos péchés sur lui, et quand il a vécu une vie parfaite et sainte devant Dieu, il a vécu la vie que nous, en tant qu'hommes, nous n'aurions jamais pu vivre. Et donc il nous impute, il nous donne sa parfaite justice, et il prend nos péchés, c'est l'échange joyeux de l'évangile. Et c'est notre transaction qui fait entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Pour le moment, on est un petit peu hors du truc. Hein. Et puis le Saint-Esprit va nous appeler, nous régénérer, il va vivre en nous, bref, il nous rend participants à ce salut. On dit qu'il applique la rédemption que Jésus-Christ a accomplie pour nous dans nos vies. Il applique dans nos vies la rédemption que Jésus-Christ a accomplie pour nous. Donc, quel était notre problème ? Eh bien, ce n'était pas une mauvaise estime de nous-mêmes, sinon Dieu aurait envoyé un psychothérapeute, pas un sauveur. C'est pas que nous vivions dans une mauvaise société qu'il fallait changer, et que cela nous changerait aussi. Parce que là, Dieu aurait envoyé un révolutionnaire ou un économiste pour les problèmes de chômage ou tout autre spécialiste pour tout autre problème. Tout cela, ce sont des conséquences du péché. Le problème entre nous et Dieu, c'est le péché et tout le reste en découle. C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils pour régler le problème du péché. Il a payé le prix pour nous en mourant sur la croix. Et le salut accompli par Jésus-Christ, c'est vu dans la Bible comme une transaction entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Et nous n'y sommes pour rien. C'est quelque chose d'objectif accompli par Dieu seul. On le voit bien, il y a plusieurs passages qui en parlent. J'ai pris le passage de 2 Corinthiens 5, vers la fin de 2 Corinthiens 5. Si j'arrive à trouver le passage. Verset 17. « Ainsi, celui qui est uni au Christ est nouvelle créature. Ce qui était ancien est disparu. Voici ce qui est nouveau déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu. » Qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Donc c'est Paul qui parle. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Donc on voit que c'est vraiment l'action, c'est quelque chose qui se passe entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Alors c'est un peu caricatural, c'est pareil, Dieu a élu, le Père, le Fils a accompli, le Saint-Esprit a appliqué. C'est schématisé, mais c'est en gros ça. Après, on voit qu'il y a des passages où, oui, Dieu était en Christ, donc Dieu lui-même était en Christ. Et on voit qu'il y a des passages qui parlent... En fait, les trois ont participé à l'œuvre, mais spécifiquement, le rôle de... Si on veut schématiser un peu chacun leur action dans cette œuvre du salut, c'est ça. Dieu, est, le Père élit, du verbe élire, le Fils accomplit le salut sur la croix et par sa vie, et le Saint-Esprit l'applique à nous. Et après, si on continue même, verset 21, « Celui qui était innocent de tout péché... Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que nous, dans l'union avec Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Donc nous avons pris son innocence et sa justice et il a pris notre péché. Il y a eu quelque chose d'accompli à la croix d'objectif. Et si cette chose-là n'avait pas été accomplie, eh bien le Saint-Esprit ne pourrait pas nous l'appliquer. Il y a quelque chose qui est en dehors de nous avant que nous soyons inclus dedans. Et dans le temps présent, donc ce salut accompli par Jésus-Christ nous est appliqué subjectivement par le Saint-Esprit. Donc vous me direz peut-être, si Dieu élit du verbe élire ou choisit de toute éternité, qu'ensuite Jésus-Christ accomplit l'expiation ou la rédemption pour nous et que le Saint-Esprit l'applique dans nos vies dans le présent, pourquoi parler de l'élection comme la première étape dans l'ordre du salut, puisque ça a été décidé de toute éternité, avant que le salut ne soit appliqué par le Saint-Esprit. Parce que c'est de cette élection que tout découle. C'est de cette élection que tout découle. Et Romains 8, versets 29 et 30 le dit bien. Vous allez voir. Paul décrivant la chaîne du salut, Romains 8, versets 29 et 30. « En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. » Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Donc on voit que c'est parce que Dieu a décidé au début de nous destiner au salut que tout le reste va en découler jusqu'à ce qu'on soit conduit à la gloire, qui normalement sera, si Jésus revient avant que nous soyons morts, au retour de Jésus, sinon à notre résurrection. Mais c'est dit au passé, il les a conduits à la gloire, tellement c'est quelque chose de certain et sûr dans la volonté de Dieu. Dieu a pourvu au salut du début à la fin. Donc c'est quelque chose de très rassurant pour nous. Quoi. Nous pouvons nous appuyer là-dessus. Romains 8, 29 et 30. Hein. Donc c'est pourquoi nous pouvons parler de l'élection comme de la première étape ou comme de la source qui provient du cœur de Dieu et de laquelle tout le plan du salut découle. Parce que Dieu nous a choisis ou choisi les croyants, hein, tout le reste est mis en œuvre par son Fils à la croix et par le Saint-Esprit pour accomplir sa volonté, pour ratifier son choix. Alors, ça peut poser des questions. Et avec quelle attitude de cœur devons-nous aborder l'élection? C'est le troisième point. Et comment aborder cette question? Tout d'abord, avec beaucoup d'humilité, sachant qu'en abordant cette question, Calvin dit que nous entrons dans le sanctuaire de la sagesse divine. Donc, on va essayer de... C'est des choses qui se sont passées dans la pensée de Dieu avant toute éternité. Donc, on va peut-être pas tout avoir. Il y a un passage de Deutéronome qui dit « Les choses cachées appartiennent à l'Éternel et celles qui nous sont révélées nous appartiennent pour que nous les mettions en pratique. » Donc, Dieu nous dévoile des choses, on ne comprendra peut-être pas tout. Il est difficile dans la Bible de comprendre. On peut voir, on peut voir dans la Bible, il y a deux vérités qui sont comme deux rails parallèles. Dieu est souverain sur tout ce qui se passe. L'homme est responsable de tous ses choix. Et la Bible ne nous dit pas comment ça s'articule. La Bible ne nous dit pas comment Dieu dit, quand Pierre prêche dans les Actes, qui dit « Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'avait destiné de toute éternité à être crucifié. » Alors Dieu l'a destiné, et en même temps il leur reproche de l'avoir fait. Et comment ça se fait? Eh bien, à la fois Dieu a tout, Dieu est souverain sur tout ce qui se passe, Dieu est maître de l'histoire, et en même temps l'homme est responsable de ses actes, et Dieu utilise les actes responsables et libres des hommes pour accomplir ce qu'il avait prévu. Et ces deux vérités qui, dans notre tête, ça colle pas, ben, pour Dieu, ça colle. Et c'est là où on dit qu'il faut aborder ça avec humilité, sachant qu'il ne faut pas essayer à tout prix de réconcilier ces vérités. Parce que là, on va raboter les angles, mais on va perdre de la révélation biblique. Donc, rappelons-nous que nous sommes finis face à un Dieu infini, éternel. Nous sommes limités dans le temps et l'espace. Nous devons apprendre les choses, tandis que Dieu sait tout, sur toutes choses, depuis toujours. Il n'a jamais eu besoin et n'aura jamais besoin d'apprendre quoi que ce soit. Ça nous donne le tournis, ça aussi. Hein. Donc là, comme dans tout autre domaine, peut-être encore plus, parce que la question de l'élection va toucher à la justice de Dieu, à notre justice, à la volonté humaine, à la volonté bonne et parfaite de Dieu, mais aussi sa volonté libre et souveraine. Donc dans ce domaine en particulier, la bonne question est... Que dit la Bible? Et si ce qu'elle dit nous heurte, nous dérange, et ça arrive, des fois on lit la Bible, on ne comprend pas. Hein, on ne comprend pas comment Dieu agit, on se dit... sachons reconnaître que ce n'est pas parce que je ne comprends pas son enseignement, ou qu'il me heurte, que je dois le remettre en question, ou essayer de le raboter, ou de l'accommoder à ma raison et à mes sentiments. Et sachons plutôt plier dans la foi notre raison et nos sentiments à la parole du Dieu, à qui nous devons tout, en premier lieu de notre vie, et aussi notre capacité à réfléchir et à connaître les choses. Donc, sachons remettre nos cœurs en question en disant, Seigneur, ouais, c'est vrai, je ne comprends pas, ça me heurte, mais je sais, ta révélation atteste partout ailleurs que tu es juste, bon, parfait, donc si je ne comprends pas, c'est moi qui ne comprends pas. Merci de m'éclairer, et laissez Dieu agir dans le temps, il vous éclairera en temps et en heure. Et voilà, on peut très bien prier comme ça. Hein. Seigneur, je ne comprends pas, mais je crois que tu es plus sage, plus juste et plus aimant que moi. Alors, je vais vous donner... On va voir quelques références bibliques, c'est le point 4, et une définition sur l'élection. On va voir un petit peu de matériel biblique quand même, hein, sur quoi ça s'appuie tout ça. Donc, un passage classique que nous avons en partie lu au départ de cet exposé, c'est dans Éphésiens. Hein. Éphésiens 1, verset 3 jusqu'à 2, 10, ça parle à la fois de l'élection de Dieu et à la fois de la condition de l'homme avant qu'il soit élu et après être élu. Ça touche à la fois. Et donc je reprends Éphésiens. On va lire les versets 4 à 6, hein, je l'avais déjà marqué là. En lui, verset 4, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Alors, quelques enseignements rapides et succincts sur ce passage. Premièrement, le choix de Dieu a été fait avant la fondation du monde. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. Donc, nous n'existions pas, nous n'avions fait ni bien ni mal. Donc c'est un choix qui ne semble dépendre que de Dieu. En deuxième chose qu'on peut voir rapidement, ce choix a pour but notre sainteté, hein, pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Il ne va pas donc nous laisser sans fruit, ce choix. Et les élus sont des privilégiés responsabilisés, pas des parvenus. Quelqu'un qui se dirait « Oh, mais super, le Seigneur m'a élu, tranquille », c'est quelqu'un, comme dirait Paul dans d'autres langages des fois, « Quoi donc, prendrons-nous la grâce pour pécher ? Loin de là. Hein ?» Donc ça veut dire que Dieu va nous mener à la fin, à la sanctification parfaite en Jésus-Christ, et qu'entre-temps, il a tout mis en œuvre pour que nous soyons transformés à l'image de son Fils. Et le fait de savoir ça, c'est étonnant, hein, mais le fait de croire que Dieu va nous sanctifier et que Dieu va nous garder, eh bien, ça va nous aider à nous garder, nous. C'est étonnant, hein. C'est l'histoire du pont et du filet. Il y avait un pont à San Francisco. C'est le plus long pont, là, le San Francisco Golden State. Et au début des travaux, il y a eu beaucoup d'accidents mortels. Les gens sont tombés, sont morts, les ouvriers. Et à un moment, ils ont décidé de mettre un gros filet dessous. Et du moment où ils ont mis ce gros filet, presque plus personne n'est tombé. Parce que les gens n'avaient plus peur de tomber. Et donc, l'élection, c'est pour le salut, mais c'est pour le salut dans son entier. Si on croit et qu'on se confie à un Dieu qui nous garde, cela va bien plus nous prévenir de la chute que d'avoir peur de tomber à tout prix. C'est comme ça que ça va marcher. Parce que c'est comme ça que la Bible le présente. Hein ? Et enfin, on voit aussi la motivation première de cette élection, au verset 5. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants. Donc son amour précède son choix et la mise en œuvre de son salut pour nous, être adopté par Jésus-Christ. Et enfin, au verset 6, tout cela a pour but de célébrer la gloire de sa grâce, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Si tout vient de Dieu, alors toute la gloire lui revient. C'est pour ça qu'on peut parler de la gloire de sa grâce. Romains 8, versets 29 et 30, on l'a lu tout à l'heure. Hein. Ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il les a justifiés, il les a conduits à sa gloire. Je lis quelques versets comme ça pour vous donner quelques références, si vous voulez les relire après. 1 Thessaloniciens 1, verset 4. « Car nous savons, frères, que Dieu vous a choisi, vous qui l'aimez. » Nous savons, frère, que Dieu vous a choisi, vous qui l'aime. Là aussi, le choix ne repose pas sur la qualité ou les défauts des Thessaloniciens, mais sur l'amour de Dieu. 2 Thessaloniciens 2, versets 13 et 14. Mais nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frère, vous que le Seigneur aime. En effet, donc le « en effet » suit « vous que le Seigneur aime », puisqu'il les aime. En effet, Dieu vous a choisi pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a purifié et par le moyen de votre foi en la vérité. C'est à cela que Dieu vous a appelé par la bonne nouvelle que nous avons annoncée. Dieu vous a appelé pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore un ou deux versets. 2 Timothée 1, versets 9 et 10. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. L'apôtre Pierre aussi nous dit la même chose. Là, j'ai beaucoup cité Paul parce que c'est lui qui en parle le plus. Hein. C'est lui qui a le plus écrit, de toute façon, au niveau doctrine dans le Nouveau Testament. Pierre, la première épître de Pierre, les deux premiers versets. « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent en ordre de passage dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie, de Béthynie. Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez été consacrés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifié par l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. » Et enfin, un petit exemple pratique. On y reviendra plus tard, ça, au côté pratique, par rapport à l'évangélisation. C'est dans Acte 13, verset 48. Paul est en train de prêcher avec Barnabas. Et voilà ce qu'il est dit au verset 48, à la fin de sa prédication. « Quand les non-juifs les entendirent parler ainsi, ils furent remplis de joie. Ils se mirent à louer Dieu pour sa parole. » Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc on voit qu'il y a un plan prédestiné, et ceux qui ont été destinés vont croire. Donc, cette manière de faire de Dieu, c'est-à-dire de choisir des gens qu'il aime de toute éternité, n'est pas propre au Nouveau Testament. Hein. Dieu ne change pas, il est immuable, il a toujours agi ainsi. Si on retourne à l'Ancien Testament pour voir comment Dieu s'est acquis un peuple, regardez ce que dit Josué 24 en parlant du choix d'Abraham. Pourquoi Abraham est un autre et pas un autre, parmi toutes les nations idolâtres qu'il y avait. C'est Josué, verset 24, chapitre 24, versets 2 et 3. « Alors Josué dit à tout le peuple est rassemblé, « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a bien longtemps, vos ancêtres, à particulier Terah, le père d'Abraham et de Nahor, ont habité de l'autre côté de l'Euphrate et ils rendaient un culte à d'autres dieux. J'ai fait venir votre ancêtre Abraham d'au-delà de l'Euphrate, je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan et j'ai multiplié ses descendants. Je lui ai donné pour fils Isaac, et puis après ça continue. » On voit que donc Josué rappelle le choix d'Abraham parmi un peuple idolâtre. Ses ancêtres étaient des adorateurs de la lune. Et on voit la grâce de Dieu qui a fait venir, qui a fait parcourir, qui a multiplié. Et c'est cette grâce qui est là, qui est soulignée. Pourquoi Abraham et pas un autre? Cela reste mystère. Mais ce choix ne trouve pas de motivation dans la famille d'Abraham, qui est décrite comme une famille idolâtre. Et si on va, pour ce qui est du choix d'Israël dans l'Ancien Testament, en ce qui concerne le choix d'Israël, que nous dit Deutéronome? Alors là, il y a beaucoup de versets assez qui soulignent vraiment la grâce de Dieu. On va commencer par Deutéronome 7, versets 6 à 8. Deutéronome 7, versets 6 à 8, Dieu s'adresse à Israël. Ou c'est Moïse qui s'adresse de la part de Dieu à Israël. Hein, c'est Moïse qui écrit. « Tu es en effet un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre pour que tu sois son peuple précieux. Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. En fait, vous êtes le moindre de tous. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres. C'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance au pouvoir de Pharaon, roi d'Égypte, et qu'il vous a libéré de l'esclavage. » Donc on retrouve le même motif d'amour. Le choix ne souligne pas du tout les vertus d'Israël, mais au contraire l'amour de Dieu qui est la source de ce choix. La gloire revient à Dieu qui choisit par amour et pas au peuple. Et la gloire ne revient pas au peuple choisi. Et c'est répété plusieurs fois dans Deutéronome. Deutéronome 84, verset 20, nous dit « Mais vous, l'Éternel, allez vous chercher. » Il vous a arraché à cette fournaise de fer qu'était l'Égypte pour faire de vous son peuple, celui qui lui appartient comme vous l'êtes à présent. Il y a le chapitre 10 aussi qui en parle bien. Je vais citer deux autres versets de Deutéronome. 10, versets 14 et 15. Voici, le ciel et même les cieux les plus élevés appartiennent à l'Éternel ton Dieu, ainsi que la terre et tout ce qu'elle contient. Donc tout appartient à Dieu. Et regardez la suite. « Et pourtant, c'est uniquement à tes ancêtres que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et c'est leurs descendants, c'est-à-dire vous, qu'il a choisi parmi tous les peuples, comme vous pouvez le constater aujourd'hui. » Et après, ça continue. « Opérez donc circoncision. » Donc après, le reste va être un appel à agir selon ce choix, quoi, selon cet appel. Donc Dieu rappelle toujours, quand ça va, il y a toujours un équilibre. Quand le choix est rappelé à Israël, à un moment donné, Dieu dit « C'est pas pour autant que Israël peut se reposer sur ses lauriers et manière de parler, mais au contraire, il est appelé à vivre selon la vocation du Seigneur qu'il a libéré. » Mais la libération du Seigneur va précéder la réponse d'obéissance d'Israël. Et ça ne veut pas dire aussi que d'autres peuples, on voit qu'à un moment, Jonas est allé prêcher aux Ninivites, tout ça. Mais là aussi, c'est Dieu qui a choisi d'envoyer Jonas au Ninivite. Dieu aurait très bien pu laisser Jonas en Israël. Et il a bien tordu le bras, mais il y allait. On voit qu'il y a toujours l'action souveraine de Dieu dans le salut, quoi. Même dans l'Ancien Testament. Hein. C'est une manière de faire de Dieu. Donc on voit que ce principe de l'élection traverse toute la Bible. Même les anges qui n'ont pas suivi Satan à leur chute sont déclarés élus par Dieu. C'est incroyable. Hein. C'est dans 1 Timothée 5:21. On va le lire pour l'anecdote, hein, parce que on prêche plutôt pour l'élection pour les êtres humains, là, mais pour montrer comment Dieu vraiment supervise toutes choses, c'est 1 Timothée 5, 21. si je ne me trompe pas. Oui, je te conjure solennellement, c'est Paul qui s'adresse à Timothée, je te conjure solennellement devant Dieu, devant Jésus-Christ et ses anges élus, d'observer ces règles sans parti pris ni favoritisme. Donc on voit même le fait que certains anges n'aient pas suivi la rébellion de Satan, eh bien, c'est parce que Dieu les avait élus, quoi. Voilà. Bon, après ces quelques passages bibliques, là, vous pourrez les reméditer tranquillement. Je vais vous lire une définition que j'ai piochée dans la théologie systématique de Wayne Grudem. Alors, je vous cite, hein, « L'élection est un acte de Dieu, donc voici unilatéral, avant la création, par lequel il choisit certains pour être sauvés, non à cause de quelques mérites de leur part qu'il aurait connus d'avance, mais uniquement selon son bon plaisir, souverain. » C'est appuyé par « selon son bon plaisir, souverain ». On va juste lire un verset qui appuie cela. Et puis après, j'apporterai une précision. Éphésiens 1, 11, regardez ce qu'il dit. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Donc là, il en rajoute une couche à chaque fois. Paul, il n'arrête pas. Hein. Nous avons été choisis conformément par celui qui met toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. On voit vraiment que Paul rajoute des couches pour bien marteler cela. C'est dans le cœur de Dieu que ce choix s'est fait. Il n'y a pas d'autre raison que l'amour que Dieu a porté à ses élus. Et bon, j'entendais un pasteur dire sur son blog, et j'étais d'accord, je reprends ce qu'il dit, que le bon plaisir souverain de Dieu, dans Éphésiens 11 et dans la citation que je viens de lire là, mais uniquement selon son bon plaisir souverain, il est lié à son caractère, évidemment, hein, c'est-à-dire celui d'un Dieu parfaitement juste, parfaitement sage, parfaitement bon, d'un Dieu qui est toute lumière, comme dit Jacques. Ce n'est pas le bon plaisir souverain d'un tyran. C'est très important de se rappeler qu'il faut que ce soit lié à tout le caractère global de Dieu. Hein. Donc, évidemment, une question se pose, là c'est le point 6 de la feuille que je vous ai donnée, une question se pose à la lecture des différents passages bibliques que nous avons parcourus, et qui concerne l'élection d'Israël dans l'Ancien Testament et des croyants du Nouveau Testament. Pourquoi le choix des élus ne semble reposer que sur Dieu, semble être un choix unilatéral qui trouve en Dieu seul, en son amour, sa source? Ça pose question quand même. La Bible a une réponse qui peut nous déplaire, mais qui explique en partie pourquoi l'élection est un acte de Dieu seulement. C'est que l'homme ne peut pas, et même pire, ne veut pas se soumettre à Dieu. Les réformés qui ont eu à débattre de cette question, il y a eu les deux gros débats qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église par rapport à cette question, c'était Augustin et Pélage, et les réformés et les scolastiques, ou Luther et Erasme, c'est un peu les deux périodes où ça en parle beaucoup. Les réformés parlaient de la totale dépravité de l'homme. Alors attention, il faut replacer dans le contexte historique. Ils ne voulaient pas dire par là que l'homme n'est capable de faire que du mal. L'expérience nous montre le contraire, et Jésus lui-même dit « Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants ». Dans ce verset que je viens de citer, là, de Jésus, il souligne à la fois la méchanceté profonde de l'homme, une méchanceté qui presque le constitue, là, depuis qu'il s'est révolté contre son créateur, mais aussi, il souligne que par la grâce commune de Dieu, l'homme a encore des capacités à des actes de bonté, même s'ils ne sont pas parfaitement purs. Vous savez quand même donner de bonnes choses à vos enfants. Donc, les réformés ne voulaient pas dire que l'homme est tellement noir qu'il n'y a rien de bon, absolument bon, qui peut sortir de lui, mais ils voulaient plutôt dire que tout l'être humain, dans toutes les parties qui le constituent, est touché par le péché. Alors, c'est-à-dire notre corps, ça c'est le plus évident, hein, on est malade, on vieillit, et puis à la fin on va mourir, sauf si Jésus revient. Hein. Mais là, c'est facile à voir, le corps est touché par le péché. Notre intelligence et notre raison aussi sont touchés, là c'est déjà plus compliqué. Par exemple, au Moyen-Âge, ça, Thomas d'Aquin avait du mal. Croyaient que la raison n'avait pas été touchée par Dieu. Les scolastiques du Moyen-Âge avaient du mal avec ça. Quelques petites références bibliques. Éphésiens 4, versets 17-18. Ah, je vous cite beaucoup de choses pour l'appuyer sur la Bible, ce qui me semble normal quand même. Puis en même temps, certains veulent le revoir, ils pourront le revoir. Voici donc ce que je vous déclare. Au nom du Seigneur, vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées, vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Donc, évidemment, c'est... Voilà. Et Romains 1, verset 31, bon, il y a tout Romains 1 de 18 à 31, mais là je vais citer Romains 1, 31. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. Non, c'est pas ça que je voulais citer. Ça, c'est plus par rapport à nos sentiments. On voit aussi dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. Donc, ça fait un petit peu les deux. Pour ce qui est de l'intelligence, il y a aussi le verset 21 et 22, mais c'est tout le passage de Romains 1 qui dit « Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. » Donc ça, c'est la condition de l'homme sans Dieu. Hein. Et c'est notre condition aussi quand nous continuons à réfléchir si nous endurcissons dans le péché, évidemment. Hein. Et notre volonté a été touchée. Ça, c'est aussi... Ça, certains ont eu du mal avec aussi, et ont toujours du mal. Et c'est vrai que ça nous heurte, disant, mais alors, on ne peut pas choisir Dieu par nous-mêmes. Le verset 21 de Romains, on y reviendra plus après ça, 1.21 et 1.25, « Alors qu'ils connaissent de Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit et de lui exprimer leur reconnaissance. » On voit qu'il y a un choix. Et le verset 25, « Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré servir la créature au lieu du Créateur, lui qui loue éternellement. Amen. » Donc, et si on continue dans les portraits assez terribles que l'Écriture fait de l'être humain touché par le péché, peut-être qu'un des plus terribles, c'est Romains 3, versets 10 à 18, où on voit vraiment l'incapacité morale de l'homme à être sauvé et l'impact du péché sur toute sa nature. L'Écriture, écoutez ce que dit l'Écriture. D'ailleurs, Paul dit, l'Écriture le dit, Romains 3, verset 10, et Paul va citer toute une collection de versets qui piochent un peu de partout dans le Testament, dans les Proverbes ailleurs. « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Alors évidemment, il parle de juste par rapport au salut, hein, devant Dieu pour obtenir la justice. « Pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. » Ça, c'est dur, hein, pas un qui cherche Dieu. Souvent, on dit « Ouais, mais moi, je cherchais Dieu. » Alors, Pascal disait, « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. » Le philosophe Pascal. Et en fait, l'homme va souvent chercher son bien-être ou va chercher à être heureux. Et si Dieu peut lui apporter bénédiction, mais chercher la personne même de Dieu, naturellement, si le Saint-Esprit ne vient pas l'éclairer et le chercher. Ils se sont tous égarés, ils sont tous corrompus, tous ensemble. Il n'y a pas un qui fasse le bien, non pas même un seul. Leur gosier ressemble à un tombeau ouvert, leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère, leur bouche est pleine d'aigres malédictions. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. La destruction et le malheur jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. À leurs yeux, révérer Dieu n'a aucun sens. Alors, tout le monde ne se retrouve pas dans tout, dans verser le sang, tout ça. Mais le fait de ne pas chercher Dieu et à la fin, à leurs yeux, révérer Dieu n'a aucun sens. Ça se retrouve chez des gens même très bien moralement et à qui vous allez parler de Dieu et qui sont totalement indifférents. Et alors, Dieu, à quoi ça me sert pour être heureux? À quoi ça me sert pour mener ma vie? On le retrouve quand même assez fréquemment. Hein. Un autre aspect du péché, c'est que l'homme est déclaré spirituellement mort par les Écritures. Spirituellement mort. Hein. Donc, un mort ne peut revenir à la vie de lui-même. Il faut que quelqu'un le ressuscite, hein, si c'est possible. Seul l'esprit de résurrection, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, peut donner la vie. Alors, regardez un petit peu le témoignage de l'Écriture par rapport à ça. Toujours dans Éphésiens 2, verset 1 et verset 4 et 5. « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Et verset 4 et 5. « Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns les autres avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble, nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Donc, on voit que le passage de la mort à la vie vient de Dieu. On voit qu'il y a l'état de mort spirituel des Éphésiens qui est décrit, que leur passage à la vie vient de Dieu. Il nous a fait revivre. Et l'on trouve toujours cette même motivation à cause du grand amour dont il nous a aimés. Aller dans un cimetière, j'ai lu un témoignage d'un professeur de théologie qui s'amusait à amener ses étudiants dans un cimetière et à leur demander de prêcher la bonne nouvelle devant des tombeaux. Alors, les étudiants étaient choqués, interloqués au début, mais c'était un petit peu pour leur faire saisir cette réalité spirituelle. Si on essaye, ça ne va pas marcher. Les gens ne vont pas écouter l'évangile, vont pas. Voilà. C'est exactement ce que la Bible dit de nous, en fait. Dans d'autres moments, elle va parler aussi qu'on est aveugle. Là, elle dit carrément qu'on est mort, donc il faut qu'on soit éclairé, ou qu'on est sourd, ou qu'on a un cœur de pierre. Et des fois, carrément, elle va dire qu'on est mort spirituellement. Le reste, c'est une manifestation de cette mort. Écoutez ce que dit Jésus dans Jean 5, versets 24 et 25. C'est Jésus qui parle. « Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. » Donc, avant d'entendre Jésus, d'écouter, d'avoir la vie éternelle, il était mort spirituellement. « Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient et elle est déjà là où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et tous ceux qui l'auront entendu vivront. » Ceux qui auront entendu la voix du Fils de Dieu vivront. Donc il faut que l'homme puisse entendre cette voix qui l'appelle pour passer de la mort à la vie. Tout comme Lazare a entendu la voix de Jésus l'appeler hors du tombeau, c'est la voix de Jésus par son esprit qui nous appelle de la mort à la vie. Et il y a dans cet appel une vie qui est donnée. Tous ceux qui l'auront entendu vivront.
Tous ceux qui l'auront entendu
vivront. Oui, mais en même temps, oui, tout à fait. En même temps, on voit que beaucoup qui l'entendent ne vont pas vivre. Donc, on rentre dans autre chose qui est dans l'appel, mais on en reparlera tout à l'heure. On voit qu'il y a souvent, en gros, dans la Bible, il y a une dissociation entre un appel général à tous, et l'homme est responsable de ne pas répondre, on va y venir tout à l'heure, et un appel particulier, tous ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés dans Romains. Il y a comme un appel qui est efficace, quelque chose d'irrésistible, on va voir. Hein. Écoutons encore Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, versets 26 à 29. Ça touche un peu ce que tu viens de dire, Serge. Après, je vous donne ce que je crois être biblique, hein, ce que j'ai compris de la parole de Dieu par rapport à l'élection, qui est appuyé aussi historiquement par d'autres. Après, je sais que tous ne partagent pas ça. Et puis, on est là, vous êtes libre de... Si vous avez, peut-être que vous sortirez de cet exposé en disant « Ah, j'avais jamais pensé comme ça, puis ça m'éclaire et ça m'enrichit. » Peut-être que vous direz, moi je ne vois pas ça dans la Bible, et peut-être que Dieu travaillera. Voilà, hein, c'est un exposé libre, évidemment. Hein. Regardez Jean, chapitre 10, versets 26 à 29, c'est très intéressant. Jésus parle, mais vous ne croyez pas, pourquoi ? Ah, alors qu'il est en train de leur annoncer, comme tu dis, il y a un appel. Jésus est en train de parler à tous, mais certains n'ont pas cru. Vous ne croyez pas, pourquoi ? C'est Jésus qui parle. Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc il y a l'appel, la voix et la suivance. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Ça va aller jusqu'au bout. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or moi et le Père, nous sommes un. Donc on voit dans ce passage que les brebis ne deviennent pas des brebis parce qu'elles écoutent Jésus, mais parce qu'elles sont ses brebis, elles vont l'écouter. C'est dans ce sens que c'est présenté dans ce passage. Puis le suivre et recevoir sa vie. Et cela jusque dans l'éternité. Rien ne pourra les arracher de ma main. Moi, j'y vois un fort parallèle avec le passage qu'on a lu, que je ne vais pas reciter, de Romains 8, 28, jusqu'à 39, même après. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a destinés à être semblables à l'image de son fils. Ceux qu'il a destinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Hein? Et après, le passage continue dans Romains 8, et il dit... que dire de plus ? Si Christ est pour nous, qui sera contre nous ? Qui pourra nous arracher à l'amour de Christ ? Et puis il cite un tas de trucs. Et là, Jésus est en train de dire la même chose en d'autres termes. Il dit, ceux qui sont mes brebis vont entendre ma voix et me suivre, et rien ne pourra les arracher de ma main, comme rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. On peut lire ces deux passages en parallèle, c'est très riche. Donc, en conséquence un peu de tout ce que je viens de dire avant, sur l'incapacité morale de l'homme à se sauver, son absence totale de mérite, comme on l'a lu, dans la description de Romains 3, le péché qu'il a atteint dans toutes les composantes de son être, et aussi son état de mort spirituelle. Si Dieu n'avait pas décidé de sauver des pécheurs, de les élire, du verbe de les élire, oui c'est ça, pour qu'ils croient, personne ne croirait en fait. C'est ce que dit Jésus en Jean 6, versets 37 et 44. Regardez ce que dit Jésus en Jean 6, verset 37 et 44. Verset 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. » Donc, celui qui va venir, Jésus promet de ne pas le repousser. C'est ouvert à tous. Mais en même temps, c'est tout ce que le Père lui donne. Et verset 44, on va lire le verset 43 avant parce que juste avant, on va dire de 42 à 44, parce qu'il disait « Voyons, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il prétendre qu'il est descendu du ciel ?» Jésus leur dit « Cessez donc de murmurer ainsi entre vous. » Et là, Jésus va donner une réponse, une explication à leur incrédulité, juste après. « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Dans la réponse de « Mais voyons, c'est le fils de Joseph », Jésus leur dit « Personne ne peut venir à moi. » Ils ont entendu les mêmes paroles que les autres. Certains ont cru, d'autres non. C'est le thème de tout l'évangile de Jean. Donc, vous me direz peut-être, là je suis en train de passer aux questions, au point 7 du petit truc, je vais essayer de répondre à quelques objections qui sont les plus classiques quand on aborde cette doctrine d'élection. Vous me direz peut-être, mais alors, qu'en est-il du libre arbitre? C'est en effet une question qu'on se pose. Alors déjà, il faut s'entendre sur la définition de ce terme qu'on ne trouve pas dans la Bible. Alors ça ne veut pas dire qu'il existe, on ne trouve pas le mot Trinité non plus, mais juste dans le savoir qu'il n'existe pas en tant que tel dans la Bible, et que quand la Bible parle de liberté, elle l'associe à Jésus-Christ. C'est en se soumettant à Jésus-Christ qu'on connaît la vraie liberté. Galates 5.1 nous dit « Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire de nouveau en esclavage. » Ben, cela veut dire, le Christ nous a rendu libres, c'est qu'avant le Christ, avant qu'il ne nous rende libres, nous ne l'étions pas. Et d'ailleurs, il dit, tenez bon, ne vous laissez pas réduire de nouveau en esclavage. Et quant à la liberté, ce verset sous-entend aussi qu'il peut y avoir une fausse liberté, pour que nous connaissions la vraie liberté. L'Épître aux Romains, au chapitre 6, nous dit des choses très intéressantes là-dessus. Romains 6. On va lire les versets 17 à 19 et 20 à 23 de Romains 6, qui parlent de liberté et d'esclavage. Mais Dieu soit loué, verset 17, si autrefois vous étiez des esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Et à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Si je parle ainsi à la manière des hommes, c'est à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez autrefois offert vos membres en esclaves à des passions dégradantes et immorales pour vivre une vie déréglée, de même offrez-les maintenant en esclaves à la justice pour mener une vie sainte. Bon, on va continuer après. Et lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Or, quel fruit portiez-vous alors? Des actes dont les seuls souvenirs vous font rougir de honte maintenant, car ils conduisent à la mort. Mais maintenant, affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte, et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. On n'est pas le dernier. Donc, on voit dans ces passages-là qu'on est soit dans la sphère du péché, et on offre ses membres à l'esclavage du péché, mais on voit que les gens qui les offrent, ils ont choisi de les offrir. C'est leur choix de vie. Mais on remarque que le vocabulaire employé rend l'homme responsable de ses péchés. Ce n'est pas une marionnette. Mais par contre, il est libre par rapport à la justice. Soit on est dans la sphère de Dieu, de la justice, et on est libre du péché. On dirait qu'il n'y a pas de no man's land. La volonté qui voulait pécher, là il décrit des gens qui voulaient pécher, veut maintenant obéir à son Seigneur qui l'a libéré. C'est un petit peu le truc qu'on voit dans ces deux passages quand il oppose à chaque fois ceux qui sont affranchis du péché ou ceux qui sont dans le péché et qui sont libres par rapport à la justice. Et Jésus nous dit la même chose en Jean 8. Jésus dit un petit peu la même chose et ça choque un peu. Jean 8, verset 31. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous attachez à la parole que je vous annonce, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire vous serez des hommes libres ? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, « Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. » Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc le fils, c'est le fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Donc, si le libre arbitre signifie, d'après les passages qu'on a lus là, que l'homme a gardé sa capacité de choisir entre le bien et le mal, ou entre le péché et Dieu, ce serait peut-être plus juste, hein, ou entre la justice et le péché, alors la Bible affirme clairement le contraire, comme nous venons de le voir. L'homme ne peut et ne veut pas se soumettre à Dieu de son propre chef. Par contre, si on prend une définition peut-être plus moderne, dans l'esprit moderne, parce que là, la définition du libre-arbitre entre choix, entre le bien et le mal, elle est peut-être plus liée à la réforme. C'est là-dessus qu'a eu lieu le débat à la réforme. Est-ce que l'homme est capable de choisir Dieu ou pas ? Donc, elle est un peu marquée historiquement, cette définition du libre-arbitre. Par contre, actuellement, le libre-arbitre, des fois, il peut parfois revêtir des notions de responsabilité ou de choix responsable chez nos contemporains. Quand vous dites à quelqu'un, vous parlez du libre-arbitre, ça veut dire que l'homme n'est pas une marionnette déterminée, mais qu'il pose des choix responsables et est redevable de ses choix. C'est beaucoup la définition que les gens entendent actuellement par le libre-arbitre. Et alors, dans ce cas-là, oui, l'homme peut avoir un libre-arbitre, mais c'est là où... C'est ce qui est étonnant, et là où le bât blesse, ce libre arbitre, il va l'utiliser dans la sphère du péché seulement. C'est un libre arbitre pour rester toujours indépendant de Dieu. L'homme est responsable, si l'on veut, libre de cette fausse liberté qui essaie de vivre indépendamment de Dieu, dans une sphère de péché. Calvin dit que l'homme pêche nécessairement, ça veut dire que ça fait partie de sa nature. Et David, au psaume 51, nous dit « Je suis né dans le péché ». Donc, en fait, le cœur de la chose, ce n'est pas la volonté de l'homme, mais c'est le cœur de l'homme. Jérémie 17, il faut sortir du débat qui est axé sur la volonté, en croyant que c'est la volonté qui détermine tout, mais c'est plutôt le cœur qui détermine tout, et la volonté va suivre un cœur. Si le cœur est mauvais, la volonté va aller vers des mauvaises choses. Si le cœur est racheté, la volonté va aller vers les choses de Dieu. C'est dans ce sens-là. Regardez ce que dit Jérémie en parlant du cœur humain au chapitre 17. Premier verset. « Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer. Il est gravé sur la tablette de leur cœur avec la pointe d'un diamant. » Donc on voit que le péché est inscrit dans leur cœur. Il est gravé avec la pointe d'un diamant parce que leur cœur est dur. Mais en fait, il habite leur cœur, le péché. Et on va quelques versets après au verset 9. « Le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Il est incurable. Qui pourrait le connaître ?» Et par contre, dans le même prophète, quelques chapitres plus tard, au chapitre 31, verset 33, en parlant de la nouvelle alliance. « Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai, œuvre de l'Éternel, ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun son compagnon ou son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'au plus grand, l'Éternel déclare. » Car je pardonnerai la faute, je tiendrai plus compte de leur péché. Le cœur est changé, le désir de connaître Dieu et de marcher avec Dieu suit. C'est à peu près ça. Cela va donc prendre une action de Dieu pour changer nos cœurs, et nous sommes libres de dire oui à Dieu, de répondre à son appel, parce que nos cœurs ont été changés. Donc dans la doctrine de l'élection souveraine de Dieu, c'est bien l'homme qui dit oui à Dieu. On n'est pas irresponsable, on n'est pas des marionnettes. Mais parce que le Saint-Esprit a changé son cœur, parce que le Saint-Esprit l'a régénéré, ainsi sa volonté est réorientée selon les désirs de son cœur. Et à l'inverse, si on regarde à l'inversement ce qui se passe, c'est Éphésiens 2, verset 3. Éphésiens 2, verset 3. « Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes, nous vivions selon nos désirs d'hommes, livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. » Donc des hommes pécheurs qui suivent leur cœur pécheur. Ils suivaient les pensées de leur corps et de leur esprit. Et la suite, versets 4 et 5, « Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour de nous aimer, alors que nous étions spirituellement morts. Nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes. Il nous a fait revivre les uns les autres avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Donc c'est lui qui nous a fait revivre. Alors comme je disais tout à l'heure un petit peu, notre époque très individualiste et indépendante met la volonté en premier. Nous sommes persuadés que nous sommes libres de nos choix, mais en fait, dans nos décisions, notre volonté ne fait que suivre les désirs de notre cœur. Notre cœur change, notre volonté se réoriente. Prenons l'exemple de Dieu. Dieu est-il libre ? Question un peu provocante. Agit-il librement selon ce qu'il veut ? et de manière responsable? Bien sûr, hein, plus que tous, Dieu est le seul réellement libre. Il ne doit rien à personne, il a la vie en lui-même. Et le psaume 115, verset 3 nous dit « Notre Dieu est dans le ciel et il fait tout ce qu'il veut, même sauver des pécheurs comme nous. » Mais Jacques nous dit aussi « Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même par personne. » Donc, Dieu est totalement libre, mais selon sa nature. Il ne peut et ni ne veut être infidèle, tricheur ou menteur. Est-ce qu'on dirait que Dieu n'est pas libre parce qu'il ne peut pas choisir entre le bien et le mal? Donc, ce n'est pas de choisir entre le bien et le mal, c'est plutôt quel est notre cœur. Et si notre cœur est orienté, si notre cœur est régénéré par le Saint-Esprit, nous allons librement dire oui à Dieu. Et Dieu sera souverain dans son action de régénération, et nous serons responsables et libres d'avoir répondu à cet appel quand notre cœur aura été régénéré. À l'inverse, regardez le diable, lorsqu'il ment, qu'est-ce qui se passe? Jean 8 nous dit qu'il ment, c'est sa propre nature, c'est son propre fond. Regardez Jean 8, verset 44. Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il part de son propre fond, puisqu'il est menteur, EST. Lui, le père du mensonge. Donc, on voit qu'il part de son propre fond. Est-ce qu'il est irresponsable pour autant? Non, il est responsable de tous ses actes méchants, mais ça fait partie de sa nature profonde. Il agit selon sa nature, librement selon sa nature profonde. On va dire responsablement selon sa nature profonde. Donc, en gros, le message de la Bible, c'est que depuis la chute, l'homme agit selon son cœur qui s'est révolté contre Dieu. Et dans sa grâce et son immense bonté, Dieu va changer le cœur de ceux qu'il a élus et ils vont pouvoir et vouloir répondre favorablement à son appel. Si Dieu n'était pas intervenu dans nos vies, nous ne lui aurons jamais dit oui. Une autre question surgit. Dieu est-il injuste en choisissant certains et en laissant les autres à leur propre cœur? C'est une autre question qu'on se pose par rapport à l'élection. On peut spontanément remettre en question la justice de Dieu. Alors si le problème, c'est que si nous nous plaçons sur le niveau de la justice stricte, sur le plan de la justice, nous sommes tous des pécheurs méritant sa colère. On va relire Romains 1, qui est classique là-dessus. Mais les premiers versets 18, du haut du ciel, Dieu manifeste, 18 à 21, du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même leur ayant fait connaître, car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leurs pensées dépourvues d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Non, rappelez-vous que la colère de Dieu, on a naturellement tendance à transposer nos sentiments sur ceux de Dieu, à faire des anthropomorphismes qu'on appelle. La colère de Dieu, ce n'est pas Dieu qui perd contrôle. Ce n'est pas Dieu qui pique un caprice comme nous, des fois quand on est en colère, ce n'est pas très beau à voir. C'est Dieu qui réagit justement face au péché. On peut en avoir un petit aperçu si des fois, par exemple, on entend une histoire, on lit une histoire, ou on voit quelque chose de vraiment choquant, ou on entend à la télé un fait divers choquant, ben ça va nous révolter, on va dire, mais comment ils ont pu faire ça? Mais c'est incroyable, c'est injuste. Ben là, c'est peut-être une forme de colère juste. Dieu a une juste réaction par rapport au péché, et Dieu, tout en étant amour, est aussi juste. Il ne faut jamais séparer les deux. Hein. Et si nous sommes sauvés, en fait, c'est parce que Jésus-Christ a pris la juste colère de Dieu que méritaient nos péchés sur lui. Le problème du péché a été réglé, et c'est pour ça que Jésus-Christ peut nous sauver. Mais donc, si on reste sur le plan de la stricte justice, Dieu n'était absolument pas obligé de s'incarner, de venir souffrir pour nous. Hein. Tout est grâce imméritée. Hein. On va juste lire un petit passage sur la colère de Dieu, pour montrer qu'elle fait partie, qu'une bonne compréhension de la colère de Dieu fait partie de l'Évangile. Regardez le premier chapitre de Thessaloniciens, regardez versets 9 et 10. 1 Thessaloniciens 1, verset 9 et 10. Ça raconte en effet à notre sujet quel accueil vous avez réservé, comment vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parce qu'il a pris sur lui. Donc, voilà un petit peu par rapport au fait que est-ce que Dieu est injuste ou pas. En fait, si Dieu voulait être à 100% juste, tout le monde est destiné à subir sa colère. Le passage qui en parle le plus clairement, c'est Romains 9, versets 6 à 11, 36, et particulièrement Romains 9, versets 6 à 23. Et en gros, à un moment, face à ces accusations, Paul ne va pas répondre en essayant de résoudre le problème, de ce sentiment que ça peut créer, mais il va juste dire « Dieu fait grâce à qui il fait grâce, il a pitié de qui il va avoir pitié. » En gros, vois-tu d'un mauvais œil que Dieu soit bon, quoi. Est-ce parce que Dieu a décidé de sauver son peuple et d'être bon avec certains, on va lui reprocher parce qu'il a laissé les autres aller en endurcissement? C'est pas Dieu qui fait pécher les gens, c'est les gens qui restent dans leur cœur endurci, et Dieu, dans sa grâce, en sauve. Et c'est vrai, ça peut garder un côté choquant, mais finalement, ça ne change pas dans le fond que même qu'on croit ça ou qu'on n'y croit pas, ça ne change pas qu'au fond, c'est seuls ceux qui vont croire Jésus-Christ qui seront sauvés. Ça revient au même dans le fond. Juste le fait de... Voilà. Hein. Alors cela nous choque des fois, mais on va juste lire ce passage de Romains quand même un petit peu. Comment vous le relirez, vous verrez finalement. Mais que dire alors, Romains 9, 14 ? Dieu serait-il injuste ? Alors là, réaction indignée de Paul, loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai pitié de qui je vais avoir pitié. Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Et si on continue, vous verrez que ça peut heurter. Mais Paul n'éduque pas la difficulté. Et en gros, à la fin, il finit, verset 23, dans ce passage, « Oui, qu'as-tu à redire si Dieu a agi ainsi pour manifester la richesse de sa gloire à faveur de ceux qui sont les objets de sa grâce, ceux qu'il a préparés d'avance pour sa gloire ?» Donc on voit qu'il y a une élection et cela va nous choquer, va nous remettre à notre place parce qu'on va voir que finalement Dieu est Dieu et nous sommes dépendants de lui et Dieu n'a pas de compte à nous rendre en tant que tel. Et ça va faire sortir parfois notre révolte naturelle contre Dieu. Hein. Mais cela aussi peut nous pousser, si c'est bien compris, à l'adoration, à la reconnaissance du fait que Dieu est venu nous sauver, qu'il nous a attirés, qu'il nous a régénérés, qu'il nous a accordé son salut. C'est à cela que pousse normalement la doctrine de l'élection bien comprise. Et enfin, une dernière objection assez fréquente concernant cette doctrine, pourquoi évangéliser si Dieu a décidé qui était lui ou pas, hein. Alors, en dehors du fait que Dieu nous le demande, que c'est un commandement du Seigneur, d'aller évangéliser, est-ce que ça va changer quelque chose dans la motivation? Alors, regardons quelques exemples dans les Actes. On en a lu un tout à l'heure, on va le relire, parce qu'on l'a lu il y a un petit moment. Puis on va en lire deux autres dans les Actes. C'est Actes 13, 48. Dans la fin de son discours, Barnabas et Paul sont là. Et quand les non-juifs les entendirent parler ici, ils furent remplis de joie. Ils se mirent à louer Dieu pour sa parole, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc Luc est conscient, l'écrivain des Actes, que Paul et Barnabas portent des fruits, car certains sont destinés à croire. Et si on va plus loin dans Actes 16, verset 14, donc ils sont à Philippe, et puis ils vont au bord de la rivière où il y a quelques femmes qui sont rassemblées, puis se mettent à partager la bonne nouvelle. Il y avait parmi elles, parmi ces femmes qui sont rassemblées au bord de la rivière pour la prière, il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait Dieu. Elle écoutait et le Seigneur ouvrit son cœur, de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Elle fut baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient. Donc on voit pareil, ça nous parle de la même réalité, le Seigneur ouvre son cœur, ce qui la rend attentive. Le cœur est d'abord ouvert par le Seigneur, ensuite elle devient attentive et croit. Luc est bien conscient que si le Seigneur n'avait pas ouvert le cœur de Lydie, elle n'aurait pas cru. Est-ce que cela démotive Paul? Au contraire, il sait que des élus vont répondre. Il peut donc annoncer l'évangile avec assurance, car ce dernier aura un effet certain sur tous ceux qui sont destinés au salut. On croise des gens dans nos vies, on est des fois nés pour certaines dans des familles chrétiennes, mais c'est pas pour rien que Dieu nous a placés là, quoi. Parce qu'on a eu des parents chrétiens qui nous ont partagé l'évangile, on a eu une église, on a croisé des gens au travail, tout ça, on va en parler, et certains vont répondre. Et si on a été placé là, on est sûr que Dieu va porter du fruit à un moment ou à un autre, que certains qui entendent l'évangile vont répondre. Donc, au contraire, c'est réconfortant. Et regardez la réaction de Paul en Actes 18, versets 4 à 11, à Corinthe. Juste avant, ça ne s'est pas bien passé pour lui. Il a eu des problèmes dans la ville précédente. Il arrive à Corinthe, il n'est pas en forme. Quand je dis des problèmes, c'est style lapidation, des trucs comme ça. C'est pas, il n'a pas un corps au pied, quoi. Et chapitre 18 des Actes, verset 4. Chaque sabbat, donc il est à Corinthe, Paul prenait la parole de la synagogue et chercha à convaincre les Juifs et les Grecs. Quand Silas et Timothée arrivèrent de Macédoine et consacra tout son temps à annoncer la parole, il rendait témoignage aux Juifs que Jésus est le Messie, mais ceux-ci s'opposaient avec lui et l'injuriaient. Ainsi aussi, il secoua contre eux la poussière des vêtements et leur dit « Si vous êtes perdus, ce sera uniquement de votre faute, je n'en porte pas la responsabilité, à partir de maintenant j'irai vers les non-Juifs. » Il partit de là et se rendit chez un certain Titus Justus. C'était un païen converti au judaïsme, mais sa maison était juste à côté de la synagogue. Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent aussi et furent baptisés. Et écoutez la suite. Une nuit, le Seigneur lui-même parla à Paul d'une vision. N'aie pas peur. Il a besoin d'être rassuré. Je suis avec toi. Parle et ne te tais pas. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal. Car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. Comment va réagir Paul à cette annonce qu'un peuple nombreux lui appartient ? Est-ce qu'il va se dire, cool, c'est bon, c'est dans la poche. Verset d'après. Alors, Paul se fixa à Corinthe et pendant un an et demi, il enseigna la parole de Dieu. Il va mettre le paquet. Le Seigneur me dit qu'il y a un peuple nombreux. Paul a une révélation spéciale. Il n'a pas su non plus, il n'a pas dit ce sera lui. Hein. On n'a jamais à savoir qui vont répondre favorablement. On ne le sait pas. Nous, on parle, les gens vont répondre ou pas. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Mais Paul, motivé par ça, va au contraire rester à Corinthe pratiquement plus que partout ailleurs et va tous les jours enseigner à Corinthe. Parce que Dieu l'avait motivé en disant « J'ai un peuple nombreux ici. » Voilà. Donc, Dieu, dans sa grâce, Dieu a choisi qui il va sauver, mais il a aussi choisi les moyens qu'il va utiliser pour mener à bien le sauvetage des élus. Entre autres, il va utiliser nos prières et notre témoignage. Et Dieu nous fait donc la grâce de participer à son œuvre. Et comme le dit Jean, chapitre 15, verset 16, on a été choisi et envoyé pour porter du fruit. Donc ça veut dire que le fruit sera là si nous partageons l'évangile. Regardez chapitre 15, verset 16, ce que dit Jean, c'est assez intéressant. Non, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Donc là, déjà, ça remet les choses. Et je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous demandez en son nom. Voici que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Donc, le Seigneur est en train de dire qu'il les a choisis, et il les a choisis pour porter du fruit. Ça veut dire que là aussi, il y a une promesse. Le fruit ne dépend pas de nous. C'est Paul qui arrose, c'est Apollos qui plante, mais c'est Dieu qui fait pousser. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est mort. Et par rapport à l'évangélisation, dans l'histoire aussi, alors dans l'histoire, il y a eu des deux, il y a des gens qui croyaient plus ou moins, d'autres moins. Mais par exemple, Spurgeon, qui est considéré comme le prince des prédicateurs et qui a eu des conversions tous les jours de sa vie, croyait profondément en cette doctrine. Ça ne l'a pas démotivé, au contraire. Il savait qu'il allait avoir des élus, il prêchait avec un zèle incroyable. Jonathan Edwards, celui qui est à l'origine du plus grand réveil en Amérique du Nord, était Calvin, ce qu'on appelle le calviniste. Il croyait à l'élection. Quoi. Voilà, il n'y a pas que Calvin qui croyait. Mais ça s'est braqué sur lui. George Whitefield, qui a été le premier à avoir influencé Wesley, qui lui n'y croyait pas, mais qui a eu un fruit ministère aussi. George Whitefield a été le premier en Angleterre à prêcher dehors. Avant, les gens prêchaient dans les églises. Là, il est dans les milieux ouvriers, il s'est mis à prêcher. Et puis après, il est parti en Amérique du Nord. George Whitefield croyait profondément à l'élection. Et on en voit comme ça tout au long de l'église qui n'ont pas du tout été motivés. Ils n'ont pas été du tout démotivés, mais au contraire motivés par le fait de savoir que Dieu allait bénir favorablement leur prédication et que certains allaient répondre favorablement parce que Dieu avait prévu cela de toute éternité. Et pour conclure cette matinée, je voudrais vous rappeler que cet enseignement d'élection de la Bible est là pour susciter assurance quant à notre salut, reconnaissance, louange et adoration au Dieu bon et glorieux qui nous sauve. Et je conclurai donc par des versets d'Éphésiens 1, qu'on a beaucoup lu, mais qui est très riche là-dessus. On lira trois versets d'Éphésiens 1. Verset 5. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à ses enfants qui voulaient adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, verset 6, c'est sur celui-là, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Verset 11, c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. Et verset 14, c'est cet esprit qui constitue la cote de notre héritage, en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Voilà, soyez bénis.